Décryptage, Sébastien Farcy.
La planète brûle, nous le savons, et les pays du Sud sont les premiers à en souffrir. Ils n'ont pas les moyens de lutter contre ce changement climatique. Les pays riches sont les responsables historiques de ce dérèglement, mais leurs aides volontaires ne suffisent plus. Il faut donc chercher d'autres sources de financement. Taxer les secteurs les plus polluants, par exemple, qui sont encore largement épargnés aujourd'hui, le transport maritime ou aérien, les jets privés, les fabricants de plastique ou même les transactions financières. Quel est l'objectif d'un groupe de travail lancé il y a 2 ans par la France, le Kenya et les Barbades? Mais entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre. Alors comment le combler à l'heure de l'individualisme décomplexé de Donald Trump? Comment soigner notre planète et éviter les désastres climatiques à venir? Ce sont les réponses que nous essaierons d'apporter ce soir dans Décryptage. Et pour en parler, 2 invités ce soir en studio avec moi, Anna Créti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'économie et directrice de la chaire Climat à l'Université Paris-Dauphine. Et en ligne depuis Washington, justement pour suivre les réunions du FMI, Pascal Saint-Amand. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes associé au Brunswick Group et professeur de politique fiscale à HEC, expert surtout dans le groupe de travail sur les prélèvements solidaires mondiaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes à Washington. Mais avant de parler finance, commençons par bien nous rappeler que le changement climatique est réel. Il a des effets dévastateurs très concrets et je vous emmène pour cela dans le nord-est du Kenya. Il y a 3 ans, le pays a subi sa pire sécheresse depuis 40 ans. 2 millions de bêtes sont mortes, dont celle d'Halima Abdi. Laissez écouter.
Ça me fait vraiment de la peine de voir ça. Tout notre mode de vie dépend de ces animaux. Quand je les vois, je me dis que si cette vache était encore en vie, je pourrais continuer à payer l'école de mes enfants. Ma fille aînée m'a appelé hier pour me demander de payer le prochain semestre. Mais je n'ai pas les moyens. Pourtant, je me suis battue pour que mes enfants aillent à l'école. Parce qu'avec les animaux, il n'y a plus de futur possible. Ils meurent tous les uns après les autres avec toute cette sécheresse. Et si ça continue à ce rythme, il n'y a pas que les animaux qui vont mourir. Les hommes aussi.
C'était donc Halima Abdi, une des multiples victimes des dérèglements climatiques entraînés par les gaz à effet de serre émis très loin de chez elle. On rappelle que les États-Unis, la Chine, l'Union européenne sont les plus grands contributeurs historiques de ce changement climatique et encore aujourd'hui parmi les premiers émetteurs. Donc Anna Créti, ce n'est pas la première fois qu'on parle de faire payer les émetteurs de ces gaz à effet de serre. En 2009 déjà, il s'était engagé à payer 100 milliards de dollars par an dans ce but pour assurer cette transition. On peut déjà rappeler cette première mesure qui avait été envisagée et puis son résultat.
Oui, tout à fait. On est quand même dans une vie, une économie qui dépend fortement de ces fossiles. Donc on est en plein dans la contradiction d'une part de vouloir les pénaliser et d'appliquer les fameux principes du pollueur-payeur, donc de les rendre responsables de l'accumulation aussi de gaz à effet de serre qui s'est faite historiquement. Mais en même temps, on n'arrive pas véritablement à exercer une pression suffisante sur ces secteurs. Malgré des avancées, vous avez justement dit que c'est à partir déjà de 2009 à Copenhague que cette idée émerge de créer un fonds spécifique qui puisse en quelque sorte être lié aux dommages créés notamment par les émissions des fossiles. Donc en clair, c'est quand même toute l'énergie qui passe, donc pétrole, gaz, c'est notre vie de tous les jours. Mais l'institutionnalisation de cette initiative arrive avec la COP21, qui marque les débuts de ce qu'on appelle la finance climatique, qui est donc cet instrument financier un peu particulier, à moitié entre l'aide internationale et la finance au sens strict du terme, qui vient avec cette idée donc du fonds des 100 milliards d'euros ou de dollars par an, qui objectif qui a été atteint en 2022.
Ça a mis beaucoup de temps à être respecté.
Il y a eu 2 ans déjà de retard. Et il y a aussi des critiques parce que dans la comptabilisation de ce qu'on met en fait dans ces fonds, justement, l'OCDE ainsi que d'autres institutions internationales pointent une certaine, on va dire, générosité. Peut-être que ce n'est pas exactement des financements visant à la mitigation ou l'atténuation des dommages climatiques, mais plutôt de l'aide internationale qui était déjà là, en fait.
Donc, pour aller plus loin aujourd'hui, alors Pascal Saint-Amand, je me tourne vers vous. La France a créé avec le Kenya, la Barbade, cette task force, ce groupe de travail sur le financement solidaire international. Elle est présidée par Laurence Toubiana et doit essayer, entre autres, eh bien, de trouver l'argent ailleurs, chez les acteurs privés, grands pollueurs, par exemple. Vous êtes-vous l'un des experts dans cette task force? Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Où en sont les travaux et quels sont les objectifs?
Alors, la première chose, c'est que la task force, c'est une coalition de pays qui pensent qu'il faut trouver des financements innovants pour assurer une solidarité et reverser une partie de ces financements, soit à la lutte contre le changement climatique, soit au fond des dommages, Loss and Damage Fund, soit à la lutte contre la pauvreté. Et on voit qu'il y a une concurrence entre les objectifs, il y a tellement de choses à faire. Et donc on est en présence d'une coalition de pays qui est présidée, vous l'avez dit, par la France, la Barbade et le Kenya au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et donc le but de cette task force, c'est de trouver des financements qui seraient internationaux, parce qu'il ne s'agit pas de voler les bases taxables des États, il s'agit de trouver quelque chose qui aujourd'hui n'est pas taxé et qui pourrait plus facilement être redistribué aux tâches, aux objectifs qu'on vient d'identifier. Et donc dans ce spectre possible d'impôts nouveaux, vous auriez la taxation des activités maritimes qui aujourd'hui ne sont pas taxées, elles ne sont pas taxées à l'impôt sur les sociétés, elles ne sont pas taxées en termes d'émissions de carbone alors qu'elles représentent près de 3 à 4% des émissions de carbone dans le monde, c'est autant que l'Afrique, hein, le shipping, le transport maritime. L'aviation est aussi un bon candidat, l'aviation n'est pas taxée, et puis après vous avez des idées comme taxer le pétrole, mais on taxe déjà beaucoup le pétrole, donc il faudrait créer une nouvelle taxation. On taxe le pétrole via à la pompe, hein, avec des droits d'accise, mais il y a sans doute des contributions à imaginer et ou plus simplement taxer les émissions de carbone, mais ça renvoie à des problématiques compliquées parce que ces taxations des émissions de carbone, elles sont très impopulaires dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Quand un pays essaye de taxer le carbone, souvent il y a des émeutes, il y a des gouvernements qui perdent des élections, donc c'est pas une grande motivation. Mais essayez de trouver une méthode pour le faire au niveau international en réaffirmant ce principe de solidarité, c'est-à-dire que ces impôts nouveaux doivent aller à la défense d'une cause qui est la lutte contre le changement climatique et le soutien des pays qui en souffrent le plus.
Alors oui, c'est très intéressant. Solidarité, vous le dites, c'est pas un mot qui est très populaire aux États-Unis en ce moment. Le contexte est pas vraiment facile, on imagine. Vous êtes aux États-Unis vous-même en ce moment, le président américain et climato-sceptique, il coupe en général dernièrement toutes les aides de financement étranger. Comment est l'ambiance en ce moment à Washington? Est-ce que il y a un contexte pour parler de ces aides au climat et aux populations démunies, ou sinon peut-on faire sans les États-Unis?
Alors, beaucoup de choses. La première chose, c'est que l'atmosphère, elle est morose, pour le moins, pour pas dire sinistre. Second point, c'est vrai que les États-Unis se retirent. Ils se retirent de l'aide internationale. Il se retire en fait de l'aide qu'il fournissait, qui était essentielle et qui va provoquer des désastres dans de nombreux pays. Il se retire de l'accord de Paris. Ils essayent de faire pression sur la Banque mondiale, sur le FMI, pour que tout ce qui est lutte contre le changement climatique soit retiré de l'agenda. Donc on est sur un bras de fer qui commence et qui va être très violent. Ce qui, à la fois, est une mauvaise nouvelle, évidemment, pour trouver une solution globale, parce que les États-Unis n'en feront pas partie, ce qui qui donnera une excuse à de nombreux pays pour dire « puisque les États-Unis n'y sont pas, nous n'y sommes pas non plus », mais qui peut provoquer ce qu'on va appeler en anglais des « coalition of the willing », c'est-à-dire des coalitions de pays volontaires qui veulent faire la même chose, qui veulent atteindre le même objectif et qui sont obligés de se serrer les coudes précisément parce que des acteurs comme les États-Unis seront défaillants. Donc, la nécessité d'affirmer politiquement le besoin de mettre en place cette action de solidarité, c'est encore plus fort aujourd'hui que ça l'était hier. Il y a eu une réunion de la task force hier et les pays ont bien réaffirmé le besoin de trouver des solutions et d'avancer, au moins dans le discours, et c'est pas rien, hein, je ne veux pas faire croire que des mots combleront les problèmes existants, mais en tout cas maintenir ce principe dans le paysage actuel, c'est déjà une victoire.
Et concrètement, quand vous parlez de coalition des volontaires, qui est autour de la table, qui se manifeste ? L'Union européenne, qui d'autre ?
Oui, aujourd'hui, vous avez des pays membres de l'Union européenne, vous avez la Norvège, vous avez donc la Barbade qui co-préside avec la voix très importante de Mia Mottley, qui est la première ministre de la Barbade, qui a lancé de nombreuses initiatives, dont l'initiative de Bridgetown, donc pour soutenir les pays qui sont victimes du changement climatique. Et les pays africains, naturellement, sont présents. Il y avait la Somalie, par exemple, hier, il y a le Sénégal, il y a de nombreux autres pays africains qui sont très intéressés. On manque encore de pays asiatiques. Le Brésil a exprimé un intérêt à rejoindre cette coalition. Donc, la Chine n'y est pas. On n'a pas encore les plus grands acteurs. Chine et États-Unis, là, sont parfois alignés. Mais c'est un début qui s'inscrit dans le paysage. Et mettre en place un impôt mondial, c'est possible. Dans mes précédentes fonctions, j'étais directeur fiscal à l'OCDE et on a mis en place un impôt minimum mondial sur les sociétés. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Mais il faut se battre et il faut qu'il y ait ce soutien politique.
Tout à fait. Alors Anna Créti, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous voyez cette initiative qui nous rappelle d'autres initiatives qui mettent du temps à se mettre en place ? Comment est-ce que vous voyez le principe et l'exécution ?
Disons que toute la clé, on vient de le dire, c'est sur le fait que ça soit volontaire. C'est à la fois une force et une faiblesse, je dirais. Une force parce que on essaye justement d'aller à l'encontre de tous les problèmes, on va dire, liés à la fiscalité au sens légal du terme, aux problèmes qui sont encore aujourd'hui sur les taxes carbone telles que décrites dans l'accord de Paris, sur lesquels il n'y a jamais eu une véritable pression. La taxe carbone est bien sûr citée dans les fameux articles 6 de l'accord de Paris, aussi bien que d'autres moyens pour économiques et financiers pour créer des ressources pour investir dans la transition bas carbone. On a fait des avancées sur les marchés volontaires du carbone, donc on essaie de ne pas être trop sur la contrainte. Parce que sinon, on a aussi des problèmes, on va dire, surtout ce qui est accords internationaux et intégration de la fiscalité dans les accords internationaux, ce qui prend énormément de temps, de négociations, de compromis. On a une preuve de cela très concrète, l'ajustement carbone aux frontières européennes, qui va être normalement mise en œuvre et qui a demandé une dizaine d'années de négociations avec notamment tout ce qui est le commerce international, on va dire. Donc la force est celle-là. On s'échappe à tout cet establishment qui est très lourd et très contraignant. La faiblesse, c'est comme tout ce qui est volontaire, qu'est-ce qu'on va collecter ? Est-ce qu'il va y avoir un accord sur, par exemple, on a cité un certain nombre de secteurs qui pourraient être taxés.
Le secteur maritime est l'un de ceux qui a le plus d'avancées. Il y a eu un accord maintenant. Vous pouvez peut-être parler de l'accord qui vient d'être...
Cet accord, en fait, il faut faire une différence. Par exemple, en Europe, on avait déjà commencé à faire pression sur les secteurs maritimes avec une faible taxe carbone, mais quand même une taxe carbone sur les ports. pas directement sur les trajets, sur les navires. Donc, on commence quand même à avoir des instruments réglementaires reconnus. L'Europe est quand même à la pointe de tout ce qui est expérimentation. Moi, je parle toujours d'un laboratoire sur ce qui est instruments économiques et financiers contre les changements climatiques. Aussi bien que l'aviation. On a un système spécifique de taxe carbone pour l'aviation qui est lié au marché en fait de quotas. On a un système international sur l'aviation qui s'appelle CORSIA. On essaie de ramener un peu de consensus sur cela. Et ces genres d'initiatives ne peuvent que montrer l'exemple dans tout ce qui est volontaire pour avoir déjà un cadre, pour avoir des points de repère. Mais c'est vrai que, par exemple, je trouve qu'il y a, quand je parle de faiblesse, je vois que dans cette proposition, il y a aussi des niveaux de taxes carbone qui sont très différents selon les secteurs. Donc, il faut en faire la preuve de l'efficacité. Oui. Qu'est-ce que ça va apporter? Comment va réagir aussi la demande qui s'adresse à ces secteurs? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de ressources? Et après, comment on va les redistribuer tout en gardant l'équité et la transparence?
Pascal Saint-Amand, cet accord signé dans le secteur maritime, très récemment, vous pouvez d'abord me donner votre retour, expliquer un peu ce qui s'est passé, si c'est dans la bonne direction selon vous?
Alors, cet accord, il a le mérite d'exister. Il y a des années qu'il est négocié. Le secteur maritime avait des ambitions qui étaient très en deçà de ce qu'il fallait faire. Il y a un réalignement sur le niveau d'ambition. Néanmoins, on n'est pas en présence d'une fiscalité qui soit convaincante et qui permette une redistribution, un système de bonus-malus et une redistribution pour l'industrie maritime elle-même. Donc, il y a un certain niveau de déception. C'est pour ça, d'ailleurs, que les îles Marshall et les pays qui sont les plus exposés au changement climatique ont voté contre l'accord qui a néanmoins été adopté. Donc, on est sur
il prévoit
un verre,
quoi Il pourrait donner quoi
un verre à moitié.
En termes de ressources
Il instaure un système de fiscalité, mais de fiscalité qui sera redistribuée au secteur. Et donc, c'est un jeu à somme nulle, en quelque sorte, par rapport à des recettes supplémentaires qui seraient dirigées vers les pays qui souffrent du changement climatique. C'est toujours mieux que dans l'aviation, hein, comme on vient de le décrire. Il y a un système de marché de crédit, mais qui est extrêmement insuffisant. Et le système, le secteur de l'aviation échappe encore à peu près totalement à l'imposition. L'Union européenne essaye d'avancer. Les vols européens sont taxés, mais pas les vols internationaux. Et comme toujours, dans les questions de fiscalité mondiale, il y a le problème des pays qui disent « on voudrait bien le faire, mais il faut que tout le monde le fasse, à défaut de quoi on va se pénaliser nous-mêmes ». Donc vous avez cette problématique de « si tout le monde ne joue pas le jeu, eh bien ceux qui le jouent sont désavantagés, donc ils ne le font pas ». Donc dans la théorie des jeux, c'est pas très conclusif et ça ne permet pas d'arriver au bon résultat. Néanmoins, avec un bon niveau de soutien politique et une conception un peu intelligente des nouveaux systèmes de fiscalité internationale, on peut arriver à quelque chose. Donc il faut hélas reconnaître que malgré l'urgence climatique, ça va prendre du temps et ça sera des résultats insuffisants, et c'est mieux que rien.
Et pour conclure, vous pensez qu'il faut un choc, un électrochoc, même dans les pays du Nord, qui sont ceux qui doivent financer, pour que vraiment on se bouge, une catastrophe climatique, quelque chose qui réveille les esprits?
Bah hélas, on les a de mois en mois. Si les Californiens n'ont pas compris que le changement climatique pouvait se traduire par des désastres, je sais pas ce qu'il faut, un Armageddon pour qu'il y ait une prise de conscience. Non, hélas, je crois qu'on va être dans un temps plus long qui est de retenir sa respiration le temps que l'administration Trump est au pouvoir. C'est néanmoins des travaux qui aboutiront parce qu'il y a une nécessité de le faire, mais on le fera sans doute tardivement. J'espère que ce ne sera pas trop tardif, mais voyez, il n'y a pas beaucoup d'optimisme. C'est peut-être l'atmosphère à Washington qui déteint.
Oui, c'est tout à fait possible. Et puis surtout, on espère donneront des financements en Afrique, Madame Créti. Vous pensez que l'argent arrive en Afrique ou ça met du temps?
Moi, je trouve qu'il y a quand même un changement dans ce qu'on appelle les pays, justement, en finance climatique, on les appelle les Suds globales. C'est un peu une catégorie fourre-tout, mais c'est pour mettre en évidence un peu les bénéficiaires, on va dire, de l'aide contre les changements climatiques. Je trouve qu'il y a quand même une augmentation générale du niveau de conscience et de la force de ces pays dans les négociations. L'Afrique commence à se structurer comme un continent.
Merci beaucoup.
Et c'est très nouveau et voilà, peut-être un espoir.
Merci beaucoup à vous deux, Anna Créti, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, et en ligne de Washington, Pascal Saint-Amand. Merci à tous les deux pour cette conversation.